Pêle-mêle bêche, l'émission qui vous file la patate.
Chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission de Pêle-mêle bêche. L'émission avait fait une pause l'année dernière, comme vous l'avez remarqué, l'équipe s'étant dispersée aux quatre vents. Mais nous repartons cette année avec une équipe enthousiaste composée de...
Silver,
Olivier,
Jérôme
et Gabriel. Alors, au fil des émissions, Silver nous racontera des histoires de légumes, voire nous donnera des recettes. Je vous emmènerai au jardin pour les travaux de saison. Olivier nous parlera d'éco-gestes, du monde de l'humus et des arbres. Et Jérôme nous parlera de questions d'actualité. Silver, de quelle famille de légumes vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors bonjour chers auditeurs de Radio Diwa. Pour cette première, je vous propose de voyager avec moi dans l'histoire du potiron. Originaire des Andes, le cucurbita, petit fruit sauvage et amer à l'origine, a été domestiqué et longuement amélioré par les Amérindiens. Une variété brésilienne, la courge marron ou encore courge pain des pauvres, a été propagée par les Portugais et a atterri au Japon pour devenir, après croisement et multiples sélections minutieuses des jardiniers japonais, le potimarron que l'on connaît mieux aujourd'hui, avec son fameux petit goût de châtaigne sucré et savoureux. Une histoire de découverte, de voyage et de jardiniers passionnés qui a permis de nous offrir aujourd'hui un des légumes les plus savoureux qui soit. Tout commence il y a plus de 10 000 ans en Amérique du Sud et centrale. Et oui, tout comme le maïs, le haricot, le piment ou encore la tomate, ce sont les découvreurs du Nouveau Monde, les conquistadors, qui l'ont rapporté chez nous dans les cales de leurs navires. Donc il y a plus de 10 000 ans, les peuples d'Amérique centrale et des Andes, qui vivaient de chasse et de cueillette, ont commencé à s'intéresser aux fruits des cucurbitas sauvages, qui ne dépassaient guère à l'époque la taille d'un poing, mais étaient faciles à cueillir et à conserver. On pense même qu'à cette époque, les hommes cherchaient surtout les graines pour en faire de l'huile. La chair, elle, était alors maigre et amère. Mais alors, comment est-on passé de la cueillette à la domestication et à la culture de ces cucurbitas, de ces potirons et autres courges ? Ce ne sont que les suppositions des anthropologues et des archéologues, mais il est sûr que la docilité des courges, ou plutôt la facilité avec lesquelles elles se croisent et s'hybrident, ont certainement dû faciliter la tâche. Imaginez, les hommes qui vivaient à l'époque de cueillette et de chasse ont ramené de la forêt des courges sauvages pour en faire de l'huile. De là, on peut imaginer que des graines rejetées par l'homme et puis facilement germées, comme elles le font d'ailleurs très bien dans nos tas de compost, et que, ayant remarqué que des fruits étaient moins amers que les autres, les nouveaux cultivateurs de l'époque aient commencé à sélectionner des plantes pour petit à petit créer des variétés plus douces, plus grosses et plus adaptées à leurs besoins et à leurs terres. Tout cela n'est que supposition, mais ce qui est sûr, c'est que l'on retrouve au Mexique des graines de cucurbita pepo datées de plus de 7000 ans avant Jésus-Christ, et dans les Andes, des graines qui remontent à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, le potiron avait une place très importante dans l'agriculture précolombienne. Les Indiens pratiquaient la fameuse culture des trois sœurs. Elle est fondée sur l'astucieuse association du maïs, du haricot grimpant que l'on fait grimper sur le maïs, et de la courge qui rampe sur le sol et qui du coup couvre le sol, profite de l'ombre du maïs et également de l'azote apporté par les racines du haricot. Avec le piment, ces trois aliments constituaient les bases de l'alimentation des sociétés précolombiennes. Au Mexique, les graines ont servi de monnaie et ont consommé la chair des potillons grillés sur la braise ou sous forme de pain. La découverte du potiron. En 1492, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, le potiron a déjà essaimé dans toute l'Amérique du Sud et gagne petit à petit l'Amérique du Nord. On rapporte d'ailleurs certaines exclamations des conquistadors de l'époque. Christophe Colomb à Cuba, en 1492, décrivait en parlant de ses nouveaux légumes une fête pour les yeux. Cabeza de Vaca en Floride, en 1528, parlait de maïs, fèves et courges en abondance. Enfin, ma préférée, Jacques Cartier, en 1535, dans la région du Saint-Laurent, écrivait « Ils ont beaucoup de gros melons, courges, pois, fèves de toutes les couleurs, non de la sorte des nôtres. » On peut imaginer leur étonnement à l'époque. C'est donc dans les cales de leurs navires, avec l'or et les trésors pillés aux Indiens et même des esclaves, que les conquistadors ont ramené les potirons américains jusqu'en Europe. Petit à petit, les premières courges arrivent rapidement à Naples, d'où ils gagnent Gênes, puis Nice et le sud de la France. En un demi-siècle, les courges américaines ont voyagé dans toutes les régions du globe. Et qu'en est-il de sa popularité en France ? On a peu de traces, Mais au XVIe et au XVIIe siècle, le potiron arrivait depuis peu du Nouveau Monde à plutôt bonne presse. Olivier de Serres le cite dans son célèbre livre « Théâtre d'agriculture et ménage des champs » et la Quintini, le jardinier du roi Soleil, le recommande dans les potagers. Mais au XVIIIe, c'est déjà devenu un légume méprisé, du moins dans les milieux bourgeois. On le considère comme un mets insipide et une mauvaise nourriture. Mais heureusement, il n'en a pas été de même dans les potagers populaires où la courge est un légume apprécié des jardiniers, car peu exigeant en soins et généreux en récolte. Au XIXe siècle, grâce aux échanges et au travail des grainetiers, on commence à voir apparaître une profusion de variétés dans les catalogues de semences de l'époque. Le potiron redevient à la mode et des nouvelles variétés apparaissent. Des variétés locales comme le potiron jaune gros de Paris ou la courge sucrine du Berry, des variétés américaines comme la courge de l'Ohio et bien d'autres encore. À la fin du XIXe, le célèbre catalogue de semences Villemorin recensait une cinquantaine de variétés. Certaines sont encore cultivées de nos jours, mais on trouve aussi des inconnues comme la courge baleine ou la courge des missions qui ont peut-être disparu, ou sait-on jamais, sont peut-être réfugiées dans le potager d'un collectionneur ou d'un passionné. Au XXe siècle, on a assisté à l'érosion de cette belle richesse variétale qui n'a d'ailleurs pas que concerné le potiron, mais toutes les espèces légumières et potagères. La recherche de variétés à haut rendement, plus homogènes et plus régulières, s'est faite au détriment des formes, des saveurs et des ressources génétiques. Mais rassurez-vous, le potiron n'avait pas dit son dernier mot, car en effet, depuis quelques années, il fait son grand retour parmi nous. Le potiron et autres variétés anciennes de courge redeviennent à la mode. En France, les maraîchers professionnels ont produit 25 000 tonnes par an en 2003, et la production aurait triplé en 10 ans. Mais on peut penser que la production des potagers familiaux, impossible à chiffrer, est bien supérieure encore, car le potiron est un légume du potager familial par excellence. Et les jardiniers curieux aiment se faire plaisir à essayer de nouvelles variétés de courge. Aujourd'hui, Cocopelli en propose plus de 100 variétés dans son catalogue. On redécouvre les variétés anciennes et aujourd'hui, grâce au réseau d'échange de graines, on dispose de variétés japonaises, australiennes ou néo-zélandaises. Au fond des jardins potagers, dernier refuge de la biodiversité légumière, la courge n'avait pas dit son dernier mot. Maintenant, regardons un peu plus en détail ces courges et ces potirons. Tout d'abord, quand on parle de courges et de potirons, on parle en fait de trois espèces qui se déclinent en des centaines de variétés. Là, c'est le naturaliste Charles Naudin qui, en 1860, est parvenu, après de longues années de culture et d'observation des potirons, à les classer en faisant le tri dans les quelques 1000 variétés de cucurbitacées qu'il connaissait à l'époque. Les principales courges et potirons de nos jardins se divisent donc en trois variétés bien séparées. On trouve Cucurbita maxima, qui regroupe par exemple les potirons et les potimarrons, Cucurbita pepo, qui contient les citrouilles et les courgettes, et enfin Cucurbita mochata, comme musqué, qui contient notamment la courge musquée de Provence et la courge butternut. Pour les différencier, pas évident. Si on ne peut pas se fier à l'aspect, on peut néanmoins se fier au pédoncule, c'est-à-dire la courge des potirons. Chez Cucurbita maxima, le pédoncule est rond et liégeux, alors que chez pepo, il est très dur et côtelé. Et enfin, dans l'espèce mochata, le pédoncule est dur et côtelé et se continue un peu sur le fruit. Voyons de plus près l'espèce Cucurbita maxima. Il existe des centaines de variétés et chez certaines, les fruits peuvent faire plus de 300 kilos. Mais souvent, elles se contentent de quelques kilos, ce qui est déjà pas mal. On peut citer les giromonts par exemple. Ce sont des potirons couronnés avec un étranglement qui leur donne un aspect très particulier. C'est une bonne courge précoce à la chair orangée, farineuse et sucrée. Les fameux potimarrons, mes préférés personnellement, ils sont originaires du Japon, où la variété aurait été obtenue à partir de la courge marron, une courge brésilienne propagée par les Portugais au XVIIe siècle. Ce sont des petits fruits à la chair farineuse et délicieusement sucrée. On connaît aujourd'hui la variété Uchikikuri, qui a ce fameux petit goût de châtaigne, et on peut imaginer que cette variété a été issue de minutieuses sélections gustatives des jardiniers japonais, année après année. C'est en fait un véritable héritage, ces variétés. Et pour finir, on peut citer une variété de potiron géant, qui n'est pas forcément très intéressant sur le plan purement gustatif, mais qui pour le coup est une variété de tous les records. Le potiron Atlantic Giant est souvent utilisé dans les concours de courges dans le monde entier. En 2011, le record canadien, par exemple, était de 825 kg pour une seule courge. Ces potirons peuvent grossir d'1,5 kg par jour si on s'en occupe bien. On peut apparemment obtenir aisément des fruits de 200 kg dans son jardin, ça fait presque peur. Enfin, On peut citer le potiron rouge vif d'Étampes, qui est une variété commune en France, ou encore le galeux d'Eysines, un potiron blanc rosé avec des grosses verrues, ou encore le potiron bleu de Hongrie, etc. etc. On pourrait continuer pendant longtemps.
Alors Sylvère, tu nous parles des potirons, mais la courgette dans tout cela, c'est aussi une courge ?
Eh bien, pas tout à fait. Là, en fait, c'est une courge, mais plus exactement, la courgette, c'est plutôt une pratique. Puisque la courgette est en fait une jeune courge que l'on consomme jeune et immature. Le mot courgette est d'ailleurs récent et est apparu seulement en 1929. Quand la courgette est arrivée d'Italie en 1820, on l'appelait cucurzelle ou courge d'Italie. L'espèce Cucurbita pepo comprend aussi les coloquintes, qui sont décoratives, et les fameuses citrouilles d'Halloween, comme la variété Jack aux lanternes. Enfin, dans cette famille de courges et potirons, on trouve l'espèce Cucurbita mochata qui regroupe la courge musquée de Provence, qui est une des plus cultivées en France, et qui est même plutôt commercialisée en tranches tant elle est grosse et volumineuse. Mais aussi la fameuse courge butternut, noix de beurre en français, qui est excellente en velouté. Maintenant, je crois qu'on a déjà bien décrit nos potirons, et si on parlait un peu de sa culture. D'ailleurs, Jérôme, toi qui as été maraîcher pendant plus d'une dizaine d'années, a dit... Peut-être que tu aurais éventuellement un conseil ou deux à nous donner sur la culture de la courge et du potiron ?
Oui, je peux éventuellement donner ça, puisque donc là tu nous as brossé, il y a pas mal de légumes, et notamment de variétés. Donc en fait c'est un légume qui va pousser plutôt à la belle saison, qui craint le froid, donc il va pouvoir être mis en place lorsque la terre sera bien réchauffée, et c'est un légume qui est, c'est une plante qui est gourmande en fumure, et elle ne craint pas la fumure fraîche, donc il ne faut pas être avare en apport de matière organique pour l'installer dans son jardin. Et dans un jardin, il est judicieux, vu que bien souvent ce sont des plantes qui sont qu'on dit coureuses, c'est-à-dire elles courent, elles font jusqu'à plusieurs mètres de long, eh bien il est judicieux de les mettre sur la périphérie du jardin et non pas en son milieu parce que sinon elles risquent de tout envahir.
Il faut leur prévoir la place quoi, c'est des coureuses.
Voilà, donc si on n'a pas un jardin, si on a un jardin grillagé, on peut l'installer quand même au bord, elle pourra grimper puisqu'elle est coureuse et qu'elle peut s'accrocher, elle peut grimper auprès du grillage et s'il n'y a pas de grillage, la laisser courir dans la prairie, s'il y a une prairie autour ou voilà, en prenant soin de tailler l'herbe pour éviter qu'il y ait trop de limaces à l'automne qui viendraient altérer l'épiderme, quoi, hein, qui viendrait grignoter. Quoi.
Voilà, c'est une bonne astuce, ça, effectivement, pour les gens qui ont des petits jardins. On peut faire grimper la courge sur un peu n'importe quoi. Elle a des vrilles, elle s'accroche partout.
Exactement. Après, il y a un souci, c'est au niveau de la conservation. Donc, c'est vrai que c'est un fruit qui offre une récolte généreuse, comme tu l'as dit. Par contre, c'est un fruit qui, comme en culture, craint le froid. Donc, il va falloir la stocker dans un endroit idéal, c'est chaud et sec. Il faut pas d'humidité, car l'humidité, la courge étant une plante très humide, s'il y a de l'humidité, ça va amener à pourrir. Et si la température est trop basse, c'est-à-dire en dessous de 12 ou 11 degrés, eh bien l'appareil, elle craint la pourriture. Et si c'est encore trop bas, alors là, elle gèle et au moment du dégel, elle devient liquide et là, c'est foutu. Donc l'idéal, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais l'idéal, c'est dans son salon, quand on n'a pas une grosse récolte, eh bien on met ça au-dessus des meubles, sur les meubles, c'est joli, ça décore et au fur et à mesure, on pioche.
D'accord, donc on ne les garde pas à la cave, on les garde dans la maison et comme ça on les conserve. Même, je crois qu'on peut même les conserver facilement plus d'un an, certaines variétés. Hein.
Ah ben la butternut notamment, oui. Ouais, ouais. Et je peux en attester, j'en ai encore de la récolte de l'année dernière chez moi.
D'accord.
Voilà, et puis après, si on veut éventuellement aller plus loin en termes de pratique de jardinage, si on veut multiplier la semence, sachez que c'est compliqué, qu'il faut quand même se renseigner, se former un petit peu. Il y a des petits bouquins pour ça qui sont sympas, que l'on pourra parler éventuellement à une autre occasion. Mais attention à l'hybridation, c'est-à-dire que suivant les familles dont tu as parlé, Pepo, Moscata et Maxima, voilà, il faut faire attention. Dans ces mêmes familles, les variétés se croisent et donc on a des risques d'hybridation naturelle et de perdre très très rapidement la variété d'origine.
Très bien, merci Jérôme. D'ailleurs, je profite juste pour terminer un peu cette chronique sur les courges. On n'a pas cité les coloquintes, mais les coloquintes qui sont des courges de décoration sont très amères et peuvent même être toxiques. Hein, donc il faut faire attention si dans son jardin, on a à côté des coloquintes qui sont de la famille Pepo et des courgettes notamment, qui sont de la même espèce, elles peuvent tout à fait se croiser. Et moi, j'ai eu d'ailleurs cette année au jardin un spécimen étrange que je n'ai pas osé manger, à vrai dire. Et apparemment, si une courge est amer, voire très amer, il faut s'abstenir, ça peut être toxique. Voilà, c'est bon à savoir.
Ça ne met pas en appétit tout ça, mais pourtant, Silver, tu nous as fait goûter une belle petite gourmandise tout à l'heure et je suis bien curieux. Quelle est donc cette recette ?
Donc effectivement, pour aujourd'hui, je vous ai préparé une petite recette donc à base du potimarron, le fameux oshikikuri, le potimarron japonais, que je trouve moi un des plus succulents. Donc là, c'est une petite recette simple, mais très gourmande, de pâte à tartiner au potimarron, donc potimarron chocolat. Je vous donne la recette rapide. Il faut en proportion 700 g de potimarron pour 400 g de chocolat noir, 20 cl de crème, 200 g de sucre, et 100 g de noisettes, amandes, châtaignes au choix. Donc la recette elle est très simple. Moi je fais cuire le potimarron au four, comme ça il se gorge pas d'eau. Donc on garde une chair bien farineuse, bien sèche. Donc on le coupe en deux, on le vide de ses graines, on le met quoi, une demi-heure au four. Ensuite on mixe sa chair pour faire une purée. Donc là c'est au choix, on peut soit garder la peau ou la retirer, sachant que la peau du potimarron est tout à fait consommable. Donc on mixe le potimarron en purée. Après, on prend son chocolat sur lequel on verse la crème bouillante. On fait fondre notre chocolat. S'il n'est pas bien fondu, on le remet un peu au bain-marie. Donc, on fait fondre le chocolat avec la crème. On ajoute le tout, donc la purée de potimarron, le chocolat, la crème. On ajoute le sucre. On ajoute, donc moi, j'ai fait le choix de rajouter de la purée de noisettes. Après, on peut mettre de la noisette en poudre. On pourrait même mettre des éclats de noisettes si on veut quelque chose d'un peu crunchy. Et on met ça en bocal et on conserve au frigo parce que comme il y a quand même de la courge dedans, ça peut, si on ne laisse pas au frigo, ça pourrait avoir tendance à moisir. Mais bon, au frigo, ça se garde quand même, je pense, facilement un mois ou deux. Et vu que c'est assez gourmand comme produit, en général, moi, je ne le laisse pas traîner plus d'une semaine à la maison.
Tu m'étonnes.
Donc du coup, sur cette idée gourmande de recette pâte à tartiner, qui est d'ailleurs, je vous le confirme, délicieuse.
Tout à fait, exquise.
Un vrai régal. Donc faites-en chez vous et vous verrez, vous allez vous éclater. Maintenant, il y a Gabriel, tu vas nous parler sur les travaux du jardin. On est en hiver, le jardin est un peu au repos, mais il y a quand même des choses possibles. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire au jardin en ce moment ?
Alors, comme le dit le dicton, effectivement, mois de janvier, laisse la terre se reposer. On pourrait rajouter, laisse le jardinier se reposer, parce qu'il lui reste surtout à récolter quelques légumes d'hiver et à faire des activités d'intérieur. Alors, par exemple, on peut récolter, évidemment, il faut d'abord pour cela les avoir semés ou plantés, bien évidemment, mais on peut récolter tout l'hiver les légumes qui restent en terre, comme les betteraves, les choux de Bruxelles, les panais, les poireaux, les radis d'hiver. Moi, j'en ai essayé là, radis noir, radis rose, radis violet, qui sont délicieux, les topinambours aussi. Et on peut les couvrir d'une couche épaisse de paille ou de feuilles mortes pour les protéger du gel et rendre leur arrachage plus facile avec une terre qui sera moins gelée et moins collante. Pour les légumes feuilles comme les blettes, la mâche, l'oseille ou même des condimentaires comme la coriandre ou le persil, on peut les protéger par un paillis, ce qui permettra d'en récolter plus longtemps. Ou on peut aussi mettre un voile d'hivernage ou des cloches maraîchères si on en a sous la main, si on en trouve, pour en récolter pendant une bonne partie de l'hiver et très tôt au printemps avec les repousses précoces. Voilà, ça c'est une bonne chose à faire pour avoir de la verdure très tôt au printemps. C'est pendant l'hiver aussi, en ce moment on peut en cueillette sauvage, on peut aller ramasser les cynorrhodons, donc les fruits de l'églantier, là ces petits fruits rosiers sauvages qui ont une petite une forme de petits ballons de rugby. Et pour ces usages, vous pouvez vous référer à la page Cynorhodon. C'était la page mystère de l'émission de Pêle-mêle bêche numéro 6, donc de l'hiver dernier, qu'on peut écouter en podcast sur la page de l'émission sur le site de erdiwa.fr. Alors,
avec ça, on peut faire une très bonne confiture. Je ne sais pas la faire, mais un bon régal.
Voilà, il y a pas mal de recettes que nous avait données Tessa. Et notamment sur pas mal d'explications aussi sur toutes les vertus, les propriétés du cynorhodon, plein de vitamine C pour l'hiver. Vous pourrez le retrouver aussi donc plus en détail. Comme on passe moins de temps au jardin, on peut aussi s'occuper à des tâches d'entretien et d'organisation. Donc entretenir ses outils, les graisser, polir les manches, entretenir les manches. On peut faire un plan de son futur jardin en prévoyant les rotations à faire pour que les légumes de la même famille ne se retrouvent pas au même endroit que l'année précédente. On peut trier ses graines aussi et prévoir celles à se procurer en fonction de ce qu'on voudra faire. Donc Adi, il y a souvent des trocs et c'est une façon sympathique de découvrir de nouvelles variétés ou de démarrer quand on n'a pas ses propres graines. Et donc, ce qui peut aider à faire toute cette organisation de la saison à venir, c'est de faire aussi un bilan de la saison passée au jardin. Pour chaque légume, on peut voir ce qui a marché ou non, noter les observations qu'on a faites au fur et à mesure donc de la saison, noter la date de semis, de repiquage, voilà comment a été l'été par exemple. On peut faire des observations sur le climat, sur les ravageurs. Et ça permettra aussi de voir si on veut faire d'autres tentatives l'année d'après, en termes de disposition du jardin, des sept variétés, de date des semis, des choses qu'on a réussies, ratées, et comment on voudra faire. Et donc, voilà, ce bilan de la saison passée, donc son bilan de la saison de jardinage. Toi, Silver, je sais que tu en fais tous les ans. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Juste que c'est un bon exercice, hein, je pense, de se faire un petit bilan pendant que c'est frais dans la tête. C'est vrai qu'au jardin, tout au long de l'année, y a un paquet de tâches qui sont vraiment différentes à enchaîner au jardin. Il y a tout un timing à respecter. Et c'est vrai que prendre le bon réflexe de noter ses dates de semis et de noter ses observations au cours des cultures et en fin de saison, de se prendre un petit moment pour se dire voilà ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté. Et voilà, peut-être que l'année prochaine, le semis que j'ai fait à telle date, je vais le décaler un peu plus tôt ou un peu plus tard. Ça permet de progresser en jardinage. Hein. Rappeler qu'on dit souvent qu'il faut 10 ans pour faire un bon jardinier, donc c'est un bon exercice.
Merci, oui, on a encore de quoi faire. Voilà, donc ça c'était pour les travaux de saison. Et sinon, alors je voulais vous parler de livres ou de films.
Et oui, c'est vrai que c'est l'hiver, Gabriel. Est-ce que éventuellement tu aurais des petits films, des petits livres à nous conseiller pour l'hiver au coin du poêle ?
Oui, alors je voudrais vous présenter un film que j'ai vu récemment, qui est disponible à la médiathèque de Die, que certains auront peut-être déjà vu, mais que d'autres peut-être n'ont pas vu. Ça pourrait être l'occasion pour eux de le découvrir. Alors, quel est ce film ? Eh bien, voici le générique qui constitue le thème sonore du film. Cosmos, le peuple de l'herbe, qui était réalisé par Claude Nourrizzani et Marie Perrenou et qui est sorti en 1996. À l'époque, il a eu 5 Césars au Festival de Cannes. Le film se déroule dans une prairie de l'Aveyron le temps d'une journée. À l'échelle du peuple de l'herbe, les insectes et autres animaux de l'herbe et de l'eau, le temps s'écoule autrement. Une heure pour un jour pour une saison pour une vie. Et donc, pour aborder ce monde, on doit savoir faire silence et écouter ses murmures. Le film n'est pas commenté, comme pourrait l'être documentaire. On n'a pas d'indication non plus à l'écran sur quel insecte on voit. Il est uniquement illustré d'une bande sonore qui est très riche Et ça en fait plus une fiction qu'un documentaire. D'ailleurs, ce qui est le souhait des réalisateurs, qui avaient envie de faire entrer les spectateurs dans une autre dimension, dans laquelle les insectes sont des personnages à part entière et qui font vivre la part du conte, du mythe. Et on ressent cette entrée dans un monde magique, enfantin mais un peu inquiétant, avec ce thème sonore qu'on a entendu tout à l'heure et qui revient régulièrement dans le film. Voilà, c'est un film magnifique et très poétique et qui cherche à donner une vision plus riche des insectes en décentrant l'homme et en le mettant à leur niveau et à leur dimension. Et pour que l'homme trouve aussi, dans certaines scènes, des ressemblances ou des coïncidences un peu troublantes dans la façon de faire des insectes qui peuvent lui rappeler qu'il y a un lien entre tout le règne animal, voilà, même entre les insectes, les autres mammifères, les hommes. On sent comme un lien ténu qui est dégagé et mis en valeur dans ce film. Donc Claude Nouritzani et Marie Perrenou ont ensuite réalisé deux autres films, Genesis en 2004, ça c'est un conte naturel dans lequel un griot africain raconte la création du monde, et La Clé des champs en 2011. Donc voilà, donc ils ont des qualités, on va dire, de metteurs en scène passionnés par ce monde des insectes et par la nature, et ils nous proposent vraiment des films de qualité. Voilà, on trouve aussi à la médiathèque de Die leur livre jeunesse, Le pays de l'herbe, qui est une vision de l'insecte métamorphosé par la macrophotographie. C'est un petit mot juste et sur effectivement cette technologie qu'ils ont utilisée pour faire ce film Microcosmos, qui a fait de ce film vraiment un événement, c'est qu'ils ont fait faire des caméras sur mesure pour pouvoir filmer à cette échelle microscopique tous les déplacements des insectes. Donc ils ont fait fabriquer un robot, une caméra robot très très sensible et très très performante. Voilà, donc dans ce documentaire, on a la chance d'avoir des compléments aussi dans lesquels les réalisateurs parlent de toute cette aventure, et donc ça en fait vraiment un document complet. Donc voilà, à part ce documentaire, Microcosmos, ça m'a fait penser à autre chose à vous recommander, puisque Microcosmos a été tourné dans une zone sauvage du centre de l'Aveyron, le plateau du Lévézou. Et pour ce film, les auteurs ont été très inspirés par un grand entomologiste qui était précisément originaire de cette région et qui s'appelle Jean-Henri Fabre. Donc Jean-Henri Fabre, qui est né en 1823 dans l'Aveyron et mort en 1915 dans le Vaucluse, était un homme de science, un humaniste, un naturaliste, un entomologiste, un écrivain et un poète, qui a été mondialement connu pour ses souvenirs entomologiques, qui ont été traduits en 15 langues. Et qui sont très savoureux, voilà. Ouais. Jean Rostand le qualifiait ainsi, un grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète. Et donc c'est cette vision poétique du monde des insectes qui a inspiré les réalisateurs du Microcosmos et que je voudrais vous faire partager à propos d'un insecte qui concerne particulièrement les jardiniers, la bruche du pois, dont je vais vous lire un extrait. La nature, d'un zèle égal, livre à tous ses nourrissons sa puissante mamelle, aux exploiteurs du bien d'autrui, non moins bien qu'aux producteurs. Pour nous qui labourons, semons et moissonnons, nous exténuant à la peine, elle mûrit le froment. Elle le mûrit aussi pour la petite calandre, qui, exemptée du travail des champs, viendra néanmoins s'installer dans nos greniers et de son bec pointu y gruger le morceau de blé, grain par grain, jusqu'au son. Pardon, je voulais dire le monceau de blé. Pour nous qui bêchons, sarclons, arrosons, courbaturés de fatigue et brûlés par le hâle du jour, elle gonfle l'écosse des pois. Elle les gonfle aussi pour la bruche qui, étrangère au labeur du jardinage, prélève tout de même sa part de la récolte à son heure quand viennent les joies du renouveau. Suivons en ces manœuvres le zélé percepteur de dîmes en pois vert. Contribuable bénévole, je le laisserai faire. C'est précisément à son intention que j'ai semé dans l'enclos quelques lignes de la plante aimée. Sans autre convocation de ma part que ce modeste semis, il m'arrive ponctuel dans le courant de mai. Il a su qu'en ce terrain de cailloux, rebelle à la culture maraîchère, pour la première fois, des pois fleurissaient. En toute hâte, agent du fisc entomologique, il est accouru exercer ses droits. Tête petite, fin museau, costume d'un gris cendré parsemé de brun, élytre déprimé, de gros points noirs sur la plaque du croupion, taille courteau des ramassés, Tel est le sommaire croquis de mon visiteur. Mai achève sa première quinzaine et l'avant-garde m'arrive. Il se campe sur les fleurs à blanches ailes de papillon. J'en vois d'établis au pied de l'étendard. J'en trouve de cachés dans le coffret de la carène. D'autres, plus nombreux, explorent les inflorescences, prennent possession. L'heure de la ponte n'est pas encore venue. La matinée est douce, le soleil vif sans être importun. C'est le moment des ébats nuptiaux et des félicités dans les splendeurs de la lumière. On jouit donc un peu de la vie. Des couples se forment, bientôt se séparent, bientôt se rejoignent. La chaleur devenue trop forte, vers midi, chacun et chacune se retirent à l'ombre dans un pli de la fleur dont les secrets recoins leur sont si bien connus. Demain, on recommencera le festival, après-demain encore, jusqu'à ce que le fruit, crevant l'étui de sa carène, apparaisse au dehors, de jour en jour plus gonflé. Voilà, donc c'est un petit extrait de La Bruche du Poix. Le tout début, donc on n'a pas encore la ponte et le reste du cycle de la vie de la bruche, mais on voit quand même cet aspect de description poétique, vraiment des mœurs des insectes que nous fait Jean-Henri Fabre. Et d'ailleurs, nous reparlerons de cette bruche du poix et de Jean-Henri Fabre dans de prochaines émissions. Et en attendant, vous pouvez trouver ses œuvres complètes sur le site internet e-fabre.com, où on trouve ses œuvres intégrales ainsi que sa biographie, dont son autobiographie. Et je vous souhaite une bonne lecture à tous. Et je rappelle juste que si on parle des insectes, bien sûr, c'est parce que ça a trait à la nature, mais c'est parce qu'au jardin écologique, on favorise aussi la vie, les insectes qui nous sont bien utiles, comme d'ailleurs on le verra dans un prochain extrait de La Bruche du Poix, dans laquelle Jean-Henri Fabre nous parle des insectes et de leur rôle par rapport à l'homme. Voilà.
Oui, donc moi je voulais réagir par rapport aux insectes. C'est vrai qu'ils jouent un rôle super important et que l'on a tout intérêt à les protéger. Mais en même temps, parmi ces insectes-là, comme parmi d'autres choses comme les maladies et les catastrophes climatiques par exemple, ou les incidents climatiques, eh bien il y a, comme tu le disais, la bruche du poix, des ravageurs, quoi, des enquiquineurs qui sont pour ce cas-là, eh bien ils détruisent. Si par exemple on fait ces semences, eh bien ils peuvent mettre à mal justement ces graines de haricots secs ou de pois ou que l'on a mis de côté, et ils peuvent mettre à mal la germination en fait de la descendance future, et voilà, c'est un petit souci, c'est un petit souci, mais c'est vrai que c'est important et on y reviendra sans doute plus longuement et au fil du temps, mais les insectes ont un rôle à jouer, et nous en tant que jardiniers on a un rôle important à jouer aussi pour favoriser leur milieu et leur intégration dans ce milieu là. On s'étalera plutôt plus tard pour savoir pourquoi, quoi, hein, pour expliquer pourquoi, mais voilà, il y a une nécessité à accepter et à accueillir cette diversité, quoi.
Et d'ailleurs, juste en passant, une petite astuce pour ceux qui veulent se lancer dans les semences, notamment la semence de pois. Si jamais vous avez un problème de bruche, comme ça arrive très souvent, il y a un bon allié, c'est le congélateur. Dans ces cas-là, met ses graines au congélateur pendant un jour ou deux, et le petit ver qui se retrouve à l'intérieur se retrouve congelé, meurt, et c'est comme ça qu'on peut s'en débarrasser en partie. Voilà, ça c'est un petit truc qui est bien utile quand on fait de la semence.
Ouais. Voilà, oui, soit c'est le petit ver, soit même, moi j'ai déjà en congelant mes graines de petits pois retrouvaient des adultes en fait.
Oui, oui, c'est ça.
Qui avaient hiverné dans le petit pois. Et ça, Jean-Henri Fabre le décrit d'ailleurs de manière très, très amusante. Et ils avaient creusé leur trou. Alors, ce qu'il explique aussi dans ses souvenirs entomologiques, c'est que il creuse cette petite galerie qui n'empêche pas forcément la graine de germer parce qu'elle n'attaque pas le germe, en tout cas pour le petit pois. Donc même si on a des petits pois qui ont été un peu mangés, eh ben on peut quand même essayer de les faire pousser. Mais l'intérêt aussi de se débarrasser quand même des bruches qui seraient dans les petits pois qu'on va ressemer, c'est que par contre après au jardin, là ils vont se reproduire et là ils vont s'attaquer à la suite.
D'accord. S'il y a de la bruche, si le germe n'a pas été atteint, on peut toujours éventuellement garder une semence qui va pouvoir germer, quoi.
Voilà. Ouais. Voilà.
Sachant qu'on risque de ensemencer les œufs des adultes qui auront mangé ces petites graines, et on repart sur un cycle.
Et on repart sur un nouveau cycle.
Non, mais c'est pour ça que c'est bien de les congeler quand même.
Ah oui,
comme ça, on les congèle et là, on tue les bruches, mais ça n'empêche pas éventuellement le petit pois de germer.
Ouais,
voilà.
Exact, ouais. Et puis de les congeler, si c'est pas de la semence, c'est aussi intéressant pour avoir, parce que c'est quand même des féculents, tous ces,
voilà.
Tous ces légumes-là.
Et les bruches, c'est des protéines.
Les bruches, c'est des protéines, oui. C'est de la protéine végétale, les légumineuses. Hein, donc, c'est une alimentation qui est très riche en hiver, où on a, voilà, c'est que dans l'ancien temps, on mangeait beaucoup de lentilles, de pois, de haricots, et on faisait grainer les haricots à la fois pour la semence, mais aussi pour la valeur nutritive qu'elle procurait en hiver lorsqu'il fait froid, ça tient au corps. Mmh. Et voilà, donc casser le cycle de la bruche, ça permet aussi d'avoir de la réserve alimentaire en plus d'une réserve semencière, quoi.
Et ouais, et c'est vrai qu'à l'époque, certainement qu'ils mangeaient les petits pois secs pour les conserver, ça devait donner une espèce de pois cassé. Après, le petit pois bien tendre du printemps, aujourd'hui, avec la technologie, on peut les mettre au congélo, et si on veut, on peut à Noël se ressortir des petits pois frais comme au printemps. Ça peut être sympa aussi.
Exact, ouais. Bon, l'alternative au congélo, il y a aussi la conserve. C'est des choses qu'on pourra développer.
Ouais, tout à fait.
Développer plus en avant, quoi.
À la suite.
À la suite. Voilà. On termine avec des petits bruits bizarres.
Ici du film encore.
Ouais, vous allez entendre un papillon. Il semblerait que c'est un papillon.
Oui, c'est quand même la bande sonore du film. C'est pas que le bruit du papillon lui-même. Il se métamorphose. C'était la bande sonore. Voilà, c'était la bande sonore qui accompagne dans le film La métamorphose du papillon Macaon.
Oui, c'est le Macaon. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est le Macaon.
Il faut emprunter le film.
Voilà, il faut le voir. Ou le revoir.
Olivier, je crois que tu nous as préparé une petite chronique sur l'humus et ses liens avec le climat. Ça a l'air très alléchant. On t'écoute.
Oui, c'est vrai que là, je vais vous montrer un petit peu les liens qu'il y a véritablement entre les modes de culture et puis le climat. Et ça, c'est une chose qui paraît pas toujours évidente pour le grand public.
Donc c'est un sujet qui paraît étonnant comme ça, de mettre en lien l'humus et le climat. Alors quels sont les liens entre l'humus et le climat, Olivier ?
Tout le monde a entendu parler du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental d'évolution du climat et de ses rapports accablants vis-à-vis du réchauffement climatique. Les causes liées aux activités humaines, notamment. Chacun sait que le CO2 est un gaz à effet de serre les plus observés aujourd'hui et ce fameux carbone pose bien des tracas à la planète. Or, le carbone du sol peut rendre de nombreux services dans les écosystèmes. En effet, le sol est capable de séquestrer le carbone atmosphérique par le biais de la matière organique. En accueillant cette matière en décomposition, c'est-à-dire le futur humus, le sol permet de réduire fortement les concentrations de CO2 dans l'atmosphère.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple, peut-être, pour qu'on comprenne mieux ?
Prenons l'exemple de la forêt. Les arbres sont des grandes plantes qui assimilent, via la photosynthèse, le gaz carbonique pour fabriquer leurs matières, comme le bois et les feuilles. Cette matière croît sans cesse. C'est ce qu'on appelle la biomasse. Une fois morts, ces arbres restituent l'essentiel de leur matière au sol en se décomposant. Le sol s'enrichit en humus. Il devient fertile et ce CO2 est stabilisé, il est stocké. Via les plantes, le CO2 atmosphérique intègre les sols. En revanche, en mettant le sol à nu, en le labourant, l'agriculture va libérer le carbone qui était stocké dans le sol et ainsi participer au réchauffement global de l'atmosphère. Plus d'un tiers des gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère est issu des activités agricoles et forestières. Certaines pratiques agricoles, comme la fertilisation avec les engrais de synthèse ou l'irrigation qui entraîne l'érosion des sols, favorisent les émissions de CO2 au même titre que les gaz à effet de serre, comme le méthane et l'oxyde nitreux. Une des préoccupations actuelles est de trouver les moyens de gérer différemment l'agriculture afin d'accroître le stockage du carbone dans les sols.
Parmi les alternatives de gestion proposées, l'absence de labour et les cultures sous couverture végétale sont souvent préconisées. Le compostage et le bois raméal fragmenté également. Un autre exemple, au Brésil, il a été mis en évidence que l'abandon de la pratique surbrûlis lors de la récolte de la canne à sucre, permet de restituer au sol le carbone végétal.
Très bien. Tu nous parles du Brésil, mais qu'en est-il en France ? En quoi est-ce qu'on est concerné ?
Alors, le changement de pratique agricole peut s'opérer dans toutes les régions du globe. La question est bien d'accompagner toutes les nouvelles démarches bénéfiques à notre environnement. Le changement est en marche et l'agroécologie nous donne de belles perspectives pour l'avenir.
Peut-on savoir un peu plus ?
Alors oui, le sujet, bien entendu, je ne pourrais pas le développer. Mais par contre, je vous invite à venir le lundi 27 janvier 2014 aux rencontres de l'écologie au quotidien où dès 17h, des spécialistes du sol et du carbone, Martial Bernou et Tiffaine Chevalier, tous deux agropédologues de l'Institut de Recherche pour le Développement, feront une conférence sur le sujet. De même, deux petits films seront projetés pour introduire le débat sur la fragilité des sols et des bienfaits de l'agroécologie. Je voudrais également ajouter qu'ensuite, dans la soirée, Marc Dufumier, agronome d'AgroParisTech, nous fera une conférence sur l'alimentation mondiale et les atouts de l'agroécologie. Bref, une belle journée avec deux sujets passionnants en faveur de l'agroécologie. Notez-le bien dans vos agendas, c'est le 27 janvier.
Très bien, merci Olivier.
Alors pour continuer avec la problématique du climat, je voudrais aussi aborder le sujet des pollutions atmosphériques et des particules fines. C'est toujours un sujet bien d'actualité et de saison. Les éco-gestes et l'interdiction de brûler les déchets verts du jardin. Ne pas brûler mes déchets verts, c'est tout de même un comble. Mon grand-père le faisait, mon père l'a fait, et pourquoi pas moi maintenant ? Eh oui, au pays du pas vu pas pris, on pourrait se dire que c'est encore un bureaucrate qui a pondu un règlement à la noix. Eh bien, pas si sûr. Et si finalement ce geste, qui paraît ultra anodin pour ne pas dire franchement banal, pouvait mettre en péril la santé de nos proches et nos amis riverains ? L'entretien des jardins génère des déchets verts que l'on estime à 160 kg par personne et par an, dont une quinzaine passe par la poubelle. Pour s'en débarrasser, 9% des foyers les brûlent, ce qui représente un peu plus d'un million de tonnes de déchets verts brûlés à l'air libre, chaque année en France. Or, depuis 2011, une circulaire interministérielle interdit de brûler à l'air libre ces déchets.
D'accord, donc ça a été interdit, mais clairement, pourquoi ça a été interdit alors ?
Ben oui, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une grande tradition chez nous, dans les jardins, de brûler les déchets verts. Mais au-delà des troubles possibles de voisinage, tels les nuisances d'odeur et de fumée, tout comme les risques d'incendie, le brûlage des déchets verts va augmenter la pollution atmosphérique. Les polluants émis dans l'air peuvent nuire à la santé. En effet, cette combustion est incomplète, et tout particulièrement quand les végétaux brûlés sont humides. Cette combustion peu performante dégage des polluants toxiques pour l'homme et l'environnement, tels les particules fines, les fameuses PM que l'on entend régulièrement dans les médias, les oxydes d'azote, du monoxyde de carbone, des composés volatiles organiques, ou encore des dioxines. Et oui, les fameuses et vilaines dioxines. Bref, vous aurez compris, que des mauvaises choses. À titre d'exemple, brûler 50 kg de déchets verts dégage autant de pollution atmosphérique qu'un parcours de 6000 km avec une voiture diesel, ou encore 18000 km pour un moteur essence. Ou bien encore, cela équivaut à un hiver de chauffage au fioul pour un ménage. Là, ça donne un petit aperçu, finalement, tout simplement pour 50 kg de déchets verts. Or, cette pratique du brûlage s'avère être une source prépondérante dans les niveaux de pollution mesurés dans l'air, et elle peut accroître la toxicité des substances émises dans l'air en cas de mélange des déchets verts avec d'autres déchets du jardin, contenant des plastiques, des bois traités, etc. Une circulaire ministérielle de 2011 rappelle cette interdiction de brûler les déchets à l'air libre. Et il est important de respecter cette interdiction car elle vise à améliorer la qualité de l'air et donc à protéger la santé de tous. Cela semble concerner principalement les grandes villes. Or, à la campagne, nous aussi nous sommes concernés. Par exemple, en montagne, les jours de basse pression, qui n'a pas déjà observé ces longs panaches de fumée stagnant en fond de vallée ?
Effectivement, dis donc, c'est impressionnant tous ces chiffres que tu nous donnes, Olivier. Quels sont les déchets verts concernés par cette interdiction ?
Alors, parmi ces déchets, on va retrouver les tons de pelouse, les tailles de haies, d'arbustes, les résidus d'élagage, de débroussaillement, d'entretien de massifs floraux, etc., et les feuilles mortes.
Et qui doit respecter cette interdiction ? Tout le monde ?
Toute personne, particulier, entreprise, collectivité territoriale, qui produisent des déchets verts.
Et en cas de non-respect, que risque-t-on ?
En cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut être appliquée.
Et il y a peut-être des exceptions à cette interdiction, non ?
Alors, il y a toujours des dérogations. Quand il y a une loi, quand il y a une circulaire, il y a toujours une dérogation. Et suivant les départements, sur les propositions de l'autorité sanitaire et l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, il y a des possibilités suivant le lieu où on habite. Et ça, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre préfecture.
D'accord. Bon, eh ben, maintenant, on n'a vraiment plus envie de brûler nos déchets verts, dis donc. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces déchets verts ? Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement les valoriser, même ?
Alors, puisque le brûlage à l'air libre est interdit, il existe quand même des solutions qui permettent de valoriser les matières organiques, hein, les issues du jardin, pour améliorer la qualité du sol. Et je pense notamment au compostage domestique. Mais il y a aussi d'autres méthodes comme le paillage et la tonte mulching. Par rapport à ces alternatives au brûlage et à l'air libre, d'autres alternatives au brûlage et à l'air libre sont possibles. Par contre, elles nécessitent le transport de déchets verts pour la valorisation collective par compostage ou méthanisation. C'est l'exemple des apports volontaires en déchetterie. Dans certaines régions, et en Europe du Nord, les communes organisent la collecte de déchets verts au porte-à-porte. Nous venons d'aborder deux sujets qui traitent du climat et de la pollution atmosphérique. Le sol est un écosystème extrêmement riche et complexe qui joue un rôle essentiel grâce à l'efficacité du monde végétal. Chacun d'entre nous le sait. Les plantes et les arbres participent grandement à la fertilité des sols via l'humus. Mais n'oublions pas qu'ils purifient également l'air que nous respirons. D'ailleurs, certaines grandes forêts, comme en Amazonie, sont qualifiées de poumons de la planète.
Moi, ça me donne envie de poser au moins deux questions. C'est la première, en fait, le brûlis est pratiqué. On voit des colonnes de fumée régulières dans les jardins et en fin de compte, j'ai l'impression que les gens ne savent pas que c'est interdit et en même temps, ceux qui ont les pouvoirs de faire respecter cette interdiction n'agissent pas. Et deuxièmement, comment sensibiliser les jardiniers à une pratique plus respectueuse, c'est-à-dire les sensibiliser et les amener à faire en sorte que cette matière organique qui se perd en matière polluante dans l'atmosphère puisse être compostée pour revenir dans le jardin.
Oui, alors voilà, justement, le brûlage réinjecte directement le carbone dans l'atmosphère et c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Et en plus, avec toutes les nuisances très proches que l'on peut avoir. Par contre, c'est à nos élus de mettre en place la réglementation et je dirais de faire la police. Véritablement par rapport à ces interdictions. L'État, via l'ADEME notamment, et puis d'autres organismes, ont déjà des supports de communication. Il y a déjà des documents qui existent, une circulaire qui est passée, mais par contre, l'information n'est pas véhiculée. Et on peut regretter finalement ce manque de prise de conscience, mais tout simplement parce que l'information ne passe pas. Et là, peut-être que l'information pourra mieux passer par le biais de structures associatives qui vont faire la promotion des éco-gestes, des associations de jardiniers amateurs, de jardins familiaux, de jardins partagés, etc. Et de façon à vraiment diffuser cette information qui doit être vraiment intégré par la plupart d'entre nous, même si des dérogations peuvent encore subsister. Je dirais vraiment, c'est une prise de conscience collective qui est nécessaire.
Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulé. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces faux types qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de villages en enterrent dans leurs communes pour faire entrer des thunes. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces faux types qui bousillent la terre. Les blés, les patates sont bourrés de nitrates. On shoote aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait des tartines au beurre de dioxine. En voiture, on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces coquilles qui bousillent la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone tue nos forêts si précieuses autant que les tronçonneuses. L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent, mais colorants, salmonellose nous font la vie en rose. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces faux types qui bousillent la terre. Tous les ans, bonhomme, 7 milliards de tonnes
de gaz mortel, CO2 s'envole dans les cieux. L'effet de serre menace, ça fait fondre les glaces. La mer monte, c'est sans danger, y aura qu'à éponger.
Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres qui bousillent la terre. Il y a ceux qui chantent la chanson du profit contre tous ceux qui aiment la chanson de la vie.
Alors restons toujours dans le domaine du végétal. Et Jérôme, je crois que tu vas nous parler de la loi sur la contrefaçon, une loi qui concerne également les semences.
Oui, en effet, je vais vous parler d'une loi qui concerne les semences et qui est donc qui a été votée dernièrement par le Sénat et qui sera mise au vote en février 2014 auprès des députés. Il s'agit de la loi sur la contrefaçon, comme tu le disais Olivier, les semences dont les semences font l'objet. Et cela concerne non seulement nos amis auditeurs, qu'ils soient jardiniers, amateurs ou professionnels, mais tout le monde, car à travers les semences, c'est de notre alimentation qu'on parle. C'est donc important, pour ne pas dire vital. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par un bref historique sur les lois qui régissent les semences en France. Alors vous affolez pas, c'est un peu complexe, un peu technique, mais j'y reviendrai dans d'autres émissions. Hein. La semence donc remonte à l'époque de la sédentarisation de l'homme, hein, c'est-à-dire lors de la naissance présumée de l'agriculture, ce que l'on présume il y a environ 8 à 10 000 ans. Ce point concerne donc toute l'humanité, comme j'ai dit précédemment, et non pas seulement la France et l'Europe, c'est bien sûr évident. Là, on va parler d'une loi qui est française, proprement parlée, sous l'égide de directives européennes, mais bon, l'agriculture concerne véritablement la population mondiale. Donc, au 19e siècle, donc vers 1850, la marchandisation de la semence est enclenchée, alors que jusqu'alors, l'échange prévalait, c'est-à-dire que les paysans s'échangeaient leurs semences pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, sous le régime de Vichy, il y a eu la création des catalogues qui différenciaient les variétés amateurs et professionnelles. Et de là est partie toute une machine en faveur des industriels de la semence. Donc en 1961, il y a eu la création de l'Union pour la protection des obtentions végétales. Là déjà, les semenciers mettent un gros coup de marteau sur l'enclume pour battre ce fer-là, pour se protéger et écarter les utilisateurs pour les contraindre à passer par leur case, hein, c'est-à-dire la case d'achat. En 1970, il y a eu la loi sur la propriété intellectuelle qui confère à l'obtenteur le droit exclusif à produire et à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir la variété considérée. Donc là, c'est encore un coup porté. Dans les années 80, le prix du blé a chuté. Donc la pratique de la production de semences de ferme augmente avec le concours des entrepreneurs qui se sont spécialisés dans le triage à façon à la ferme. Ce sont les trieurs à façon, c'est-à-dire c'était des gens qui passaient avec une machine pour trier, enlever les impuretés, le blé cassé par exemple, les mauvaises graines, enlever toutes les impuretés qui pourraient gêner le semis par le biais des semoirs mécaniques. En 1989, il y a eu donc l'accord interprofessionnel qui interdit le triage à façon. Donc là, les semenciers montent encore auprès du législateur, ils montent au créneau auprès du législateur pour rendre illégale une activité qui tombe sous le sens, en fin de compte. Hein. Pour moi, ça me paraît comme ça, quoi.
Pour que les paysans puissent plus eux-mêmes, en fait, réutiliser leurs propres semences.
Voilà, exactement. Pour les contraindre à racheter, en fait, voilà. En 1991, donc, il y a eu l'échec de la demande française d'interdire la semence de ferme. Il y a eu une autorisation dérogatoire qui accorde la pratique contre rémunérateur de l'obtenteur. Donc,
de l'Union européenne, donc, tu veux dire
Demande française.
Le rejet de la demande française auprès de...
Oui, sans doute, oui, ça doit être... Oui, je ne l'ai pas précisé, mais ça doit être sans doute auprès de l'Europe. En 1999, les semenciers tentent d'imposer la redevance aux semences de ferme. Là, c'est un échec, mais... ils font appel au ministre de l'Agriculture afin de rechercher un compromis et ils le trouvent. Et alors là, accrochez-vous, ils le trouvent par le biais de la CVO. Qu'est-ce que la CVO ? Vous êtes bien assis là, c'est bon là ? Alors la CVO, c'est la contribution volontaire obligatoire.
Un bel oxymore.
Impeccable, voilà. La langue française, elle est géniale. Dans ses pratiques, encore mieux quoi. Donc la taxe, elle est prélevée, alors non pas directement à la source, mais presque, mais par le biais des coopératives. Lorsqu'un paysan livre son blé à la coopérative, là, la coopérative, prélève cette taxe-là. Et elle est au profit des semenciers, donc. En 2004, il y a la CNDSF, c'est la Coordination Nationale pour la Défense des Semences Fermières, qui porte plainte devant la Commission européenne sur la légalité de cette CVO. D'après mes sources, alors je n'ai pas cherché plus loin, à ce jour, la plainte serait toujours en cours. C'est-à-dire mm-hmm. qu'elle n'aurait pas été traitée par la Commission européenne. En 2007, la loi de lutte contre la contrefaçon renforce les moyens des titulaires des droits de propriété intellectuelle dans leur lutte contre les contrefaçons. Les pressions de la CNDSF ont provoqué un débat au Sénat sur la semence. Cependant, l'intervention d'un secrétaire d'État a fait adopter in extremis le texte, renforçant la pression sur la semence de ferme que certains aimeraient assimiler à une pure contrefaçon. Donc en fait, c'est voté, quoi. En 2011, il y a le vote de la loi relative au certificat d'obtention végétale. Alors officiellement, celle-ci est présentée comme un simple ajustement technique destiné à légaliser l'utilisation des semences de ferme, rendant le COV, le certificat d'obtention végétale français, qui, jusqu'alors, les interdisait. Alors, en fin de compte, il s'avère que c'est faux, car le COV français n'est pratiquement plus utilisé aujourd'hui, car il protège une variété que sur le territoire français. Depuis 1994, c'est le COV européen qui est largement utilisé parce qu'il protège la variété sur tout le territoire européen. Et d'autre part, la loi de 2011 entend élargir à 21 autres espèces le champ d'application de la CVO, donc la contribution volontaire et obligatoire, toutes les autres étant interdites à la reproduction dans les fermes.
D'accord, Jérôme. Mais on voit que toutes ces histoires de législation sont plutôt assez techniques et méritent peut-être d'être précisées un peu, je pense. Est-ce que tu pourrais un peu développer le sujet pour éventuellement des auditeurs qui n'auraient pas tout compris ?
Oui, en effet, ce dernier point est plus étoffé que le reste parce qu'il est beaucoup plus actuel, en fait. Hein, tu as raison de poser la question. Cependant, j'y répondrai une autre fois. J'en profiterai lors d'une autre émission pour développer un peu plus, là, parce que sinon, je vais m'éloigner du sujet initial là, sur la loi de la contrefaçon.
D'accord, ça marche. On t'écoute, alors.
Alors, donc, où c'est qu'on en est aujourd'hui ? Donc, comme je vous disais, le 20 novembre dernier, les sénateurs ont voté à l'unanimité un projet de loi sur la contrefaçon qui définit les champs d'application pour lutter contre. Ce projet concerne les jardiniers et les paysans, car il aura, entre autres, des conséquences sur les semences végétales, mais pas que. Aussi, les plants, les animaux reproducteurs, les préparations à base de végétaux ayant pour objectif de lutter contre les maladies des végétaux ou des animaux, et même des levures de boulangerie et les ferments fromagers. En fait, les socles de notre alimentation. Alors bien évidemment, ça génère tout de suite un sentiment de révolte et ça se comprend. Pourquoi une telle loi qui tend à criminaliser le petit jardinier ou le petit paysan qui, pour faire des économies, reproduit ses semences ou élabore ses préparations de plantes ? Bah, la réponse me semble toute claire et je pense que tout le monde l'aura compris. Il y a de gros intérêts économiques en jeu. Bien que cela touche à l'essentiel vital qu'est la nourriture, la raison d'être de cette loi ne réside pas uniquement à confisquer le patrimoine vivant et à en faire main basse sur ses droits d'accès qui semblent pourtant inaliénables. Le projet de loi en question vise à lutter contre toutes les formes de contrefaçon. Les faux vêtements de marque, les faux parfums, les faux sacs à main, les fausses chaussures, enfin tout ça quoi. Mais élargir le champ d'application d'une loi sur le vivant au nom de la protection du droit de la propriété intellectuelle pose bon nombre de problèmes. Entre autres, hein, financier pour les professionnels, mais surtout éthique et morale pour l'ensemble de l'humanité. Revenons sur l'historique que j'ai fait en début de chronique. Les semences sont depuis quelques décennies sujettes à des contraintes de plus en plus restrictives en termes d'accès. Cela impacte bien évidemment sur la préservation et l'enrichissement de la biodiversité. En effet, pour vivre, les variétés ont besoin d'être cultivées et de se reproduire dans les champs et les jardins. Or, avec tout l'arsenal des lois et règlements qui les encadrent, c'est le contraire qui se produit. Selon la FAO, alors littéralement Food and Agriculture Organization, ou Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 75% des variétés cultivées ont disparu depuis le début du XXe siècle. Énorme.
Quel appauvrissement.
Ouais, complet. De plus, alors là, accrochez-vous bien, hein, ça c'est les lois là, qui datent des années 60, là, qui dit que l'échange, le don ou la vente de semences potagères, par exemple, est interdite. D'ailleurs, on n'a même pas le droit avec son voisin de s'échanger ses semences d'herbe fine, là, parce que dans le Diwa, on aime l'herbe fine, et ben non, on n'a pas le droit. S'il y a quelqu'un qui est un huissier ou je ne sais qui passe, paf, allez, dans ta gueule. Le cultivateur de blé, lorsqu'il vend sa récolte à la coopérative, se voit prélever d'une taxe pour le compte des semenciers. C'est la fameuse CVO dont je vous parlais au début. La loi de 2011 a élargi cette taxe à 21 autres espèces, entre autres orge, avoine, pois, trèfle, luzerne. Ça veut dire quoi ? Eh bien, on autorise à ce que les producteurs multiplient ces semences, mais ils doivent s'acquitter d'un droit auprès des semenciers. Toutes les autres espèces, et notamment les potagères, sont interdites à reproduire. Il faut donc passer par la case achat. La loi sur la contrefaçon va encore plus loin à présent. Vous savez ou vous ne savez pas qu'il n'existe pas de brevet en Europe sur les variétés, contrairement à ce qui existe aux États-Unis. Tout le monde ne le sait pas, mais il n'y en a pas pour des plantes entières ou des animaux ou des bactéries. Mais par contre, sur des gènes contenus par ces êtres vivants, oui. Et c'est là que la loi en question va faire mal si son champ d'application reste en l'état, parce que les récoltes, les animaux, les productions fermières, les vins et autres boissons fermentées pourront être saisies à l'initiative des services de police ou sur simple demande du détenteur d'un brevet, d'un COV ou d'une marque commerciale qui n'aura pas besoin pour cela d'apporter au préalable la preuve de l'existence d'une contrefaçon. Au pire même, ce sera au supposé contrevenant d'apporter la preuve qu'il n'a pas utilisé sciemment le ou les gènes brevetés. Incroyable, non ? Pour cela, charge à lui de justifier sa bonne foi en présentant des factures d'achat, par exemple. De plus, les agents des services des fraudes pourront venir incognito procéder à des achats, vérifier la marchandise achetée par des analyses en vue de les saisir si besoin. En définitive, ce processus est identique à celui de la contamination par les OGM. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le débat sur les OGM, et si nos auditeurs aussi, mais je pense que oui. Mais il y avait eu des affaires qui ont tourné autour de ces problèmes de contamination, et notamment au Canada avec Peter Schmeiser, qui produisait son colza de ferme, qu'il avait depuis des générations, et a été contaminé par les gènes de Monsanto. En clair, c'était à lui à prouver son innocence. L'agriculteur aujourd'hui, avec cette loi, ça va être le même cheminement. Il sera, s'il est reconnu coupable de contrefaçon, par ce biais-là, il sera alors traité comme tel et devra alors s'acquitter d'une amende allant d'une à deux fois la valeur du bien supposé contrefait, et il risquera aussi une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. Mmh. C'est merveilleux, quoi. Hein. On va foutre le peu de paysans qui restent, là, déjà qu'on va les foutre en taule. Bref, les conséquences sont lourdes et sans appel si rien n'est fait. Cela se traduit par l'obligation d'acheter chaque année ses semences, d'être dépendant des variétés pas toujours adaptées aux pratiques culturales, parce que oui, les semences sont des êtres vivants et qu'on peut les adapter à un terroir, à des pratiques, à un climat. Voilà, il devra supporter un coût supérieur car produire ses semences coûte moins cher. Et oui, messieurs, dames, c'est vrai. C'est pas que technique, c'est aussi économique. Cela, économique dans le bon sens du terme, dans le sens où on fait des économies. Hein, pas,
bien
voilà.
Sûr, oui.
On en a bien compris. Hein. Et cela en va de même pour les animaux, les ferments et les levains. C'est-à-dire que demain, les paysans boulangers, les paysans fromagers seront concernés, les éleveurs pour, qui élèvent des animaux pour la viande, eh bien, risquent fortement d'être concernés par cette loi et peut-être se verront interdire, voire saisir leurs marchandises.
En gros, on veut mettre des codes-barres et des marques sur tout le vivant, quoi.
Et en quelque sorte, oui. Et surtout, en quelque sorte, on veut créer un nouveau marché. Un nouveau marché pour les industriels qui déjà détiennent, non seulement ils ont, par exemple au niveau des potagères, 75% des variétés ont disparu. Il faut savoir que Monsanto détient le marché de 75% des potagères. Mmh. Voilà, pour utiliser un même chiffre. Hein. Voilà, donc ils veulent aller encore plus loin, quoi. C'est toujours pareil. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour infléchir sur cette loi, c'est interpeller les députés qui vont être amenés en février à se prononcer pour leur demander de ne pas voter la loi en l'état. Ils ont les moyens de proposer des aménagements afin que les semences restent libres d'utilisation. Car en fin de compte, ce n'est que ça que réclament les opposants. Les paysans, ils réclament que ça. Hein. La plupart sont des paysans d'ailleurs, souvent les plus fragiles et les plus précaires. La loi d'avenir agricole, qui sera discutée en janvier prochain, est aussi un moyen d'action. Alors la loi d'avenir agricole, j'aurai pas le temps d'en reparler dans une prochaine émission, mais bon, c'est une loi qui tend à orienter l'agriculture pour plusieurs années. C'est-à-dire on veut aller vers tel type de mesures, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient techniques, structurelles, enfin voilà. Et donc dans cette loi, il y a justement cette question-là qui peut être débattue et sur laquelle on peut frapper pour que le secteur agricole, le monde vivant, soit considéré autrement, quoi.
Et donc cette loi d'orientation agricole, la prochaine sera, tu dis, va être votée là en 2014 ?
En 2014, oui. Elle va être discutée à partir du mois de janvier, quoi.
D'accord.
Et la loi sur les contrefaçons, qui concerne tous les biens fabriqués, tous les biens existants, on va dire, elle sera validée définitivement par les députés au mois de février. Donc là, pour toutes les personnes qui militent et qui sont dans les instances, qui sont représentatifs, ils vont avoir un gros gros travail à fournir, mais nous on peut aider.
En regardant s'il y a des pétitions, des choses, quel genre de choses, des pétitions qui sont en ligne.
Voilà, exactement. On peut, nous, interpeller les sénateurs et les députés qui font partie de la commission agricole et qui discuteront de cette loi. J'ai plus le temps là, de développer là, plus en avant là, le sujet, mais je vous promets de revenir sur le sujet le mois prochain. Je pourrai en parler, en faire au moins tout de moins faire un état. Mais en même temps, en attendant, je mets à disposition de vous, chers auditeurs, des liens à la page de notre émission sur le site de la radio, hein, www.rwa.fr, excusez mon allocution, afin que chacun puisse se documenter plus. Et vous trouverez aussi un lien vers le site de l'association Minga qui met à disposition le fichier des contacts de tous les sénateurs et les députés pour permettre de les interpeller sur la question. Désolé d'avoir été un peu long, mais la question sur la liberté d'accès et d'action dans les champs, les jardins et donc dans nos assiettes me tient tellement à cœur que je ne peux m'empêcher de m'étaler dans les propos. Et soyez certains que je vous en reparlerai prochainement. La saga continue, hein, si je peux dire dans ce sens. Donc les actions possibles, je ne vais pas vous donner les liens, mais ils seront sur la page. Il y a des pétitions sur le site Cyberacteur que bon nombre de nous connaissent. Des sites internet à consulter comme Semons la biodiversité, Semences paysannes, Minga, Reporter, Terre comme la Terre. Le projet de loi d'avenir agricole est consultable. Alors il y a un super argumentaire qui a été fait par semonslabiodiversité.com qui est vraiment très détaillé, c'est une analyse et qui est très très bien. Et sinon, je vous mettrai sur la page tout simplement par des mots-clés que j'ai tapé toute une ribambelle de références sur notre ami Google. Voilà, donc là vous pourrez aller chercher des informations supplémentaires, la liste des députés sur l'assemblée-nationale.fr pour pouvoir les interpeller. Et puis j'avais envie de finir juste avec des petites informations sur ce que l'on peut lire ou voir. Et notamment en termes de bibliographie, je suis en train de relire Les raisins de la colère de John Steinbeck.
Exactement, ouais.
Voilà,
ouais.
Qui est un super bouquin où en fait des paysans sont chassés de chez eux suite à la perte totale de leur récolte. Et des centaines de familles de paysans quittent leur terre pour aller vers ce qu'ils croient être la terre promise, où un avenir meilleur semble les attendre. Ce livre relate leur histoire dans l'Amérique ravagée des années 30, ravagée par la crise économique de 1929. Donc, expulsion par les propriétaires, mécanisation de l'agriculture et misère peignent la toile de fond de cette histoire. Malheureusement, je dirais, encore d'actualité aujourd'hui un peu partout dans le monde et notamment dans les pays les plus défavorisés. Et puis, en termes de films, il y a deux films qui sont Rhône Alpin, qui sont sortis il y a peu, un an ou deux, pour, voilà. Secret des champs, donc, qui est un film qui est fait de façon pédagogique, qui comporte trois volets, et qui, en fait, met en lumière, sans opposer les types d'agriculture, mais qui met en lumière les interactions entre le sol, les plantes et les êtres vivants de ce biotope et qui met en avant aussi des idées de recherche sur une agriculture différente, agroforesterie, travail non labour, voilà tout ça pour aller, Olivier parlait du carbone, ne pas labourer, ça évite de perdre du carbone par exemple, ce sont des pratiques, et puis on favorise la biodiversité, les insectes effectivement reviennent, enfin bon il y a toutes ces choses-là à redécouvrir. Et donc c'est Honorine Perrino qui l'a fait avec le soutien de la région Rhône-Alpes et l'association Réseau GM qui est une association d'information par rapport aux OGM comme son nom l'indique. Et Cultivons local est un film qui a été fait pour une partie dans le Diwa d'ailleurs, la Carline est à l'affiche à travers ce film.
Et d'ailleurs je crois qu'il est disponible à la médiathèque, je l'ai aperçu.
Ah ben c'est bien possible, ouais. Donc Cultivons local, lui, il met en lumière les modifications des pratiques agricoles avec les modifications des pratiques des consommateurs, le rapprochement avec les travailleurs de la terre et le mode de consommation. Donc c'est Patrick Viron qui est le réalisateur en partenariat avec l'ARDEAR qui est l'association régionale pour le développement de l'emploi et de l'agriculture en milieu rural. Voilà, deux petits films qui sont, s'ils ne sont pas tous les deux à la médiathèque, il suffit d'en faire la demande, ils les feront parvenir voilà. dans le rayonnage, quoi.
Et oui, des bonnes lectures donc pour cette nouvelle année.
Oui, oui, oui. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu les raisins de la colère, ne vous effrayez pas à la vue du pavé, quoi. C'est vrai que c'est volumineux, c'est écrit petit, mais franchement, quand on a mis le nez dedans et qu'on suit les personnages de ce bouquin, on a vraiment, vraiment du mal à en sortir. Voilà, moi, je l'ai lu il y a une vingtaine d'années à peu près. Là, je replonge dedans. J'ai lu ça il y a un peu moins d'une vingtaine d'années. C'est quand je m'installais ici dans le Diwa et que j'accédais à la terre et à concrétiser mon projet d'installation en tant que maraîcher. Voilà, donc du pain sur la planche pour nos amis jardiniers et nous-mêmes pour faire infléchir des décisions qui ne semblent pas justes, quoi.
Ouais, mais merci beaucoup Jérôme. Effectivement, c'est une loi qu'il faut bien garder en vue, et c'est effectivement des choses qu'il ne faudrait pas laisser passer, quoi, parce que les lois sur les semences nous compliquent déjà pas mal la vie, et là ça va effectivement un petit peu loin.
Tout à fait.
On a encore le droit de faire nos semences, et que ce soit les petits jardiniers ou les maraîchers, hein.
Exactement.
C'est un peu le même combat.
Oui, 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 tout à fait. Moi, je sais que j'incite les gens à s'informer et à se former à la multiplication de la semence et pour conserver ces savoir-faire. Parce que voilà, il y a derrière tout un volet, des volumes et des volumes d'histoire, de notre histoire, qui s'érode depuis trop longtemps. Et il faut qu'on retrouve. Il faut qu'on retrouve la main là-dessus, quoi.
Oui, voilà, on a des protections du patrimoine mondial de l'humanité. Et oui, puis bon, là, c'est notre patrimoine aussi qui est menacé. Hein.
Alors, il y en a certains qui vont pouvoir nous répondre aussi. Oui, mais il y a des généreux donateurs qui ont construit des énormes frigos dans les îles là-bas en Islande, en Finlande ou je ne sais pas où, au Svalbard. Et on a catalogué et enfermé toute la biodiversité du monde. Ou presque, oui, ben, seulement le problème, c'est qu'un être vivant, pour qu'il vive, pour qu'il puisse perdurer, il faut qu'il vive. Et oui. Il ne suffit pas de le figer.
Et parce qu'il s'adapte constamment, en fait, à son milieu. Mais aussi,
évidemment,
c'est ça.
Évidemment.
Si on le ressort dans 500 ans, si la planète existe toujours, bien sûr.
Mais en fonction des conditions, exactement, en fonction des conditions, eh ben, il y aura... Alors bon, on pourrait développer encore, mais moi je sais quelque part ce qui se cache un peu derrière, mais on y reviendra.
Oui, donc
on a le temps.
Plantez et reproduisez vos graines.
Voilà.
Voilà, bah alors maintenant on va peut-être passer à un petit point sur l'agenda, à savoir qu'est-ce qu'on peut vous recommander comme prochain événement qui se passe par ici.
Alors qu'avons-nous ? On est en janvier, et en janvier il se passe...
Fin janvier.
Plein de choses à
dire
en janvier.
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Ben, on pourra noter, bien évidemment, du 24 janvier au 3 février 2014, les 12e rencontres de l'écologie au quotidien sur le thème « Biodiversité, cultivons la vie », dont vous retrouverez tout le programme sur le site écologieaucotidien.fr. D'autres annonces ?
Oui.
Non, mais en tout cas, cette année, c'est clair que le programme des rencontres de l'écologie au quotidien est complètement dans la thématique de l'émission. A priori, il va y avoir pas mal d'interventions justement sur le problème de la semence, du vivant, etc. Et ça risque d'être vraiment super intéressant cette année.
Oui, c'est sûr qu'autour du thème de la biodiversité, il y a énormément, énormément de choses à redécouvrir et non pas à découvrir et d'actions à conduire pour que enfin des décisions puissent être prises pour qu'on retrouve la raison au moins d'une agriculture et d'une alimentation plus saine.
Voilà, et bien alors pour tous les auditeurs qui auraient envie de nous écrire pour nous faire des suggestions, qui auraient envie de participer à l'émission pour intervenir sur un sujet ou juste pour être là dans l'animation, dans l'équipe d'animation, vous pouvez nous écrire sur à l'email pelmelbèche@gmail.com. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions passées sur le site de Radio Diwa, donc rdwa.fr. Dans les rubriques thématiques, vous trouvez Pelmelbèche. Et voilà, vous enregistrez cette page dans vos favoris et vous aurez accès à toutes nos émissions passées en podcast.
Voilà, et moi je voulais rajouter juste au niveau de l'adresse email. Cette émission, en fait, on la veut, enfin moi personnellement ça me tient à cœur, mais j'aimerais que ce soit la vôtre, que vous la sentiez vôtre, et n'hésitez pas à nous écrire pour nous soumettre des idées de sujets, de choses dont vous voudriez qu'on parle.
Voilà, ou des questions sur le jardin, pourquoi pas, profitez-en, vous avez un peu des spécialistes qui sont là, donc nous on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis on se dit à dans un mois pour la prochaine.
Eh ben oui.
À la prochaine.
À la prochaine.
Allez, au revoir.
Bon jardinage.
Salut.